Merci Tony. On m'entend là? Oui, ça va, plus ou moins. Je vous invite à ouvrir dans vos Bibles à Éphésiens chapitre 2 à partir du verset 11, ce qui s'afficherait aussi sur l'écran en principe. Alors, je n'ai pas voulu faire la révolution ce matin, mais si vous êtes comme moi, il y a des choses qu'on finit par connaître tellement bien qu'on ne les voit même plus. Et j'ai voulu vous mettre autant que possible concrètement dans ce passage. Alors, la révolution aurait été d'être très concret et dire que pour être cohérent à partir du verset 11, il faudrait qu'on sorte tous. Et qu'on se mette à rentrer uniquement quand on peut, d'après le passage. Mais évidemment, vous ne m'entendrez plus si vous sortez. Et puis, ça prendrait trop de temps aussi. Donc, je vais vous demander quand même de vous lever. Pour commencer. Parce que nous sommes tous dans le contexte. Ce que nous étions autrefois. À moins qu'il y ait quelqu'un d'origine juive là, parmi nous. Mais ça, je ne pense pas. Sinon, nous sommes littéralement là où ça commence, au verset 11. Écoutez ce passage comme si c'est la première fois que vous l'entendez. Essayez vraiment de vous mettre dedans, c'est-à-dire restez debout jusqu'à ce que vous puissiez vous asseoir en disant « Ah, ça, c'est moi maintenant. » Et on est debout parce que ça, c'est nous avant. Je vous le lis lentement dans ce sens-là et asseyez-vous dès que vous pouvez. Mais en étant capable vraiment de dire, ah oui, là, je peux m'asseoir parce que je suis dedans. C'est pourquoi, souvenez-vous qu'autrefois, vous étiez identifiés comme non-juifs dans votre corps, appelés incirconcis par ceux qui se disent circoncis et qui le sont dans le corps par la main de l'homme. Oui, comme j'ai dit, aucun de nous n'est d'origine juive. Donc on est debout parce qu'on est dehors. Le verset suivant. Souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie. On ne connaissait pas encore Jésus. On ne savait pas qui était. On ne savait même pas qu'il était promis. Exclu du droit de cité en Israël, parce que pour pouvoir aller jusqu'au temple, il fallait ou être juif ou devenir prosélyte avec tout un long processus. Et même là, on ne pouvait pas entrer dans les parvis. Étrangers aux alliances de la promesse, on n'avait rien, comme le verset continue à le dire, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Qu'étions-nous autrefois? On ne connaissait pas Dieu, même si on avait peut-être la pensée que Dieu existait quelque part, mais on n'avait rien pour nous montrer qui il était, ce qu'il a fait pour nous, qui était Jésus. Qu'est-ce qui pouvait nous permettre d'arriver devant Dieu et dire, Seigneur, oui, laisse-moi entrer dans ton royaume? Absolument rien, parce qu'aucun de nous ne pouvait dire par notre propre justice, par nos œuvres, par notre religion même, quelle que soit l'assiduité de sa pratique, quelque chose qui permettrait à Dieu de dire, oui, je te connais, oui, tu peux entrer. D'où, comme il dit très littéralement, nous étions tous littéralement sans espérance et sans Dieu dans le monde. Heureusement que Paul n'a pas arrêté d'écrire les choses là, n'est-ce pas? Sinon, on serait déjà pas là aujourd'hui. Mais continuons. Mais maintenant, ouf, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Est-ce que vous pouvez vous asseoir maintenant? Oui, si nous sommes en Christ par son sang, mais est-ce que c'est si sûr que tout le monde puisse s'asseoir? Parce que ça ne veut pas dire quoi que Dieu existe, ni même croire tout simplement que Jésus a existé, ni même qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Mais comme le verset le dit, en son sang, Christ est-il réellement mort sur la croix pour moi? A-t-il payé devant Dieu le prix de mes péchés? C'est en partie ce que représentait le pain et la coupe. Et là, oui, si on peut dire, pas juste je sais, j'espère, mais je suis en Christ. Là, on est enfin déjà dedans. Ouf! Mais n'est-ce pas, nous nous arrêtons tellement souvent là aussi. Et c'est formidable, devenu proche de Dieu par le sang de Christ. C'est déjà tellement merveilleux, magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Jésus lui-même l'a résumé en Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Mais si nous avons la vie éternelle, pourquoi nous arrêter là? Parce que c'est, n'est-ce pas, ce que nous faisons aussi très souvent? Le passage ne s'est pas arrêté là non plus, même si c'est déjà énorme, parce que savoir qu'en Romains 5 le dit, maintenant nous avons la paix avec Dieu, Romains 8:1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, plus crainte de jugement. Mais ce n'est pas tout, justement. Le passage continue. Et c'est là que j'espère même vous mettre encore plus directement dans le passage, ensemble avec moi ce matin, pour comprendre aujourd'hui, ce matin, avec nous, entre nous, avec tous les autres frères et sœurs ailleurs dans le monde, ce que Dieu a fait pour nous. Pas seulement pour l'éternité, mais pour maintenant. Continuons la lecture, donc. Verset 14. En effet, il est notre paix. Oui, il a fait la paix avec Dieu, mais ce n'est pas tout. Voyons la suite. Lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un. Là, c'est plus question vis-à-vis de nous et Dieu. Il a aussi fait la paix entre nous. Des deux groupes, Israël et nous, les nations, tels que nous étions décrits jusque-là. Israël, peuple de Dieu, peuple de la promesse, et nous qui n'avions aucune part avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait sur la croix, en plus de nous donner la vie éternelle par la foi, le pardon, la rédemption par son sang? Il a fait la paix entre nous. Il n'y a plus Israël et les autres. Continuons la lecture. Et je reprends même le verset. En effet, il est notre paix, lui qui des deux groupes n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur qui les séparait, la haine. Avant Jésus, les non-juifs, même prosélytes, pouvaient arriver dans le parvis des nations, l'extérieur du temple. Et aucun non-juif pouvait aller plus loin. D'ailleurs, même les dames, il y avait ségrégation, parce que vous ne pouvez pas aller aussi loin que les hommes. Et à l'époque, avant que le temple soit détruit en 70 de notre ère, tous les quelques mètres, il y avait un grand écriteau en plusieurs langues. Attention, peine de mort pour quiconque entre sans avoir le droit d'y entrer. Voilà le mur qui nous séparait de Dieu. On ne pouvait s'approcher de lui que de loin. Mais Dieu a brisé ce mur-là. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement symbolique. Comme vous le savez dans le récit de Matthieu, quand Jésus a expiré son dernier souffle sur la croix, qu'est-ce qui s'est aussi passé dans le temple? Le voile qui séparait le lieu très saint, le propitiatoire, l'arche de l'Alliance, a été déchiré du haut en bas. Et ce n'était pas un petit voilage. C'était plutôt un genre de style tapisserie d'Aubusson, épais, de plusieurs couches. Et la main de Dieu lui-même, par le haut, qui était à plusieurs mètres de hauteur, déchirée pour montrer, comme Matthieu le dit, que là, l'accès nous est ouvert à tous ceux qui sont en Christ, qu'il n'y a plus de séparation. Mais ça ne nous concerne pas que nous et Dieu. Continuons la lecture. Il explique versets 15 et 16. Par sa mort, il a rendu sans effet la loi avec ses commandements et leurs règles. Pourquoi pouvons-nous nous approcher de Dieu? Quand Dieu nous voit, il voit Jésus et Jésus dit, paix en plein. Quels que soient nos péchés, nos désobéissances, nos rébellions, tout. Donc il n'y a plus de loi, parce que la loi est morte sur la croix pour le jugement, pour la condamnation. Pourquoi nous avons la paix? Rendu sans effet la loi, parce que Satan, il a beau dire, « Ah, tu sais un tel ce qu'il fait encore !» Et comme Martin Luther l'a dit dans un rêve assez vif, il répondait à Satan, « Bon, c'est tout, toute cette longue liste? T'as oublié une chose et Satan en piquait un peu. Ah quoi, j'ai oublié un péché? Non, t'as oublié de mettre en bas, payé en plein, par Christ. » Ce qui change tout. C'est notre cas. Le mur de séparation est brisé, l'accès est libre. Vous le chantez peut-être dans les gemmes, dans le lieu saint, j'entre Seigneur. C'est pas ici le lieu saint. C'est devant le trône de grâce de Dieu dans les lieux célestes que nous entrons, que nous avons libre accès par le sang de Christ. Ça va beaucoup plus loin que le propitiatoire dans le temple à Jérusalem. Nous pouvons être deux endroits en même temps, ici sur terre et devant Dieu, devant son trône, en sa présence, pour recevoir grâce, pardon, miséricorde, tout ce dont nous avons besoin. Parce que Jésus a brisé le mur qui nous séparait de cela. Mais là, il nous ramène entre nous, à nouveau. Il revient dessus, afin de créer en lui-même un seul homme nouveau, plus juif, plus non-juif. Comme c'est écrit aussi dans l'Épître aux Galates, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Mais nous sommes tous un Christ. Évidemment, ce verset-là ne dit pas qu'il n'y a plus homme ni femme. On reste qui on est. Par contre, il n'y a plus ce qui nous sépare les uns des autres. Quel que soit notre état civil, notre genre, rien. Parce que qu'a fait Christ après ce verset? Créé en lui-même par sa mort un seul homme nouveau. Et nous sommes tous dedans, donc nous sommes un. Et là, aucune distinction à faire. Ce que nous sommes encore en tant qu'individus, on ne gomme pas qui nous sommes. Ni nos nationalités, nos personnalités, notre sexe, rien. Et pourtant, nous sommes un ensemble dans un seul homme nouveau. Parce que c'est comme ça qu'il établit pour nous, je poursuis la lecture du verset, à partir des deux, ainsi la paix. Et là, au lieu de regarder vers Dieu, il braque le projecteur sur nous, le verset suivant. Il a voulu les réconcilier l'un et l'autre avec Dieu, en les réunissant dans un seul corps au moyen de la croix, en détruisant par elle la haine. Là, il change d'image, du coup c'est non seulement un seul homme, mais le corps. Et même sans être médecin, infirmier, nous savons suffisamment sur nous-mêmes et sur l'anatomie. Oui, il y a un cœur, il y a des poumons, il y a le rein, les reins, le foie, les muscles, les os. Et tout ça fonctionne ensemble, tout en étant différent. Mais quelqu'un qui a une maladie auto-immune, c'est grave, parce que du coup, une partie de son corps rejette une autre partie. Et là, c'est mortel. À moins qu'il y ait soin. Dieu, qu'a-t-il fait pour nous? Il a réconcilié tout le corps ensemble pour qu'on soit compatible, si je puis dire. Il n'y a pas de rejet d'une partie par l'autre partie. Comme quelqu'un qui a été greffé du cœur, qui doit prendre plein de médicaments pour baisser son système immunitaire, pour éviter que le greffe soit rejeté et qu'il meure. Dieu a réglé ça pour nous en Christ. Dans cette image, on est tous dans le même corps et on fonctionne ensemble sans rejet, sans lutte, sans difficulté. Avec Christ comme tête et chacun de nous à notre place dans le corps. Plus de haine, plus de difficulté en principe. Voilà. Alors, est-ce que c'est juste une image? Évidemment, pour nous, c'est une image parce qu'on n'est pas collés tous les uns aux autres pour nous promener dans la semaine. Aller au travail tous ensemble, ça ne fonctionnerait pas. On n'irait nulle part. L'image du corps nous montre que oui, on est ensemble et compatible et en harmonie. Parce que Dieu nous a transformés pour nous rendre ainsi comme un corps qui fonctionne. Continuons encore la lecture, il le répète. Décidément, on avait besoin de l'entendre, parce que trois fois dans ces quelques versets, Dieu dit, il a brisé la haine, il l'a détruit, il l'a éliminé. Trois fois, il souligne la haine. C'est qu'on doit avoir un problème avec ça, n'est-ce pas? Il suffit de regarder le monde autour de nous pour le constater. Mais ce n'est plus le cas pour nous, si nous sommes en Christ. Et puis là aussi, le contraste haine. Et qu'est-ce qu'il dit? Plusieurs fois, il répète aussi, « Mais il est notre paix, il a fait la paix, non seulement avec Dieu, mais les uns avec les autres. » Et il enfonce le clou, et là, il redirige le regard là où il faut, d'abord premier, le verset 18. « À travers lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père par le même esprit. » Là encore, on est un en Christ. Le même esprit nous habite tous. C'est à cause de Christ et par l'esprit qu'aucun de nous ne peut dire « Ah, il y a un, il a priorité sur moi. » Je dois attendre ? Non. Tous immédiatement, quand nous en avons besoin, maintenant même dans la présence de Dieu. Un libre accès, et ce qui est tellement merveilleux, comme Romains chapitre 8 le dit, même quand nous, on dit, « Ah Seigneur, qu'est-ce que je peux te demander parce que je ne sais pas comment me sortir de ma situation ?» L'Esprit lui-même qui connaît les pensées de Dieu intercède pour nous. Et Paul écrit dans ce verset-là, « Et lui, il connaît la volonté de Dieu. » Donc, quand nous, on n'a pas les paroles comme on vient de chanter pour exprimer notre amour, on peut faire confiance que l'Esprit de Dieu est en train de dire, « Oui, Père, moi aussi, je lui demande... » Ça, parce que c'est ça sa volonté pour lui ou pour elle. Et là, deux sont d'accord pour que ça arrive pour nous. Voilà la véritable puissance de la prière. L'Esprit de Dieu qui intercède selon la volonté du Père pour nous. Jésus qui intercède pour nous, Romains 8 encore, il est à la droite du Père. Pourquoi? Notre avocat, quand Satan nous accuse, « Ah, moi je suis mort pour ça. » Et il intercède pour nous lui aussi, ça en fait trois. Qui demande la même chose pour nous. Si nous sommes en lui, ce serait formidable d'être mieux alignés à leurs pensées, n'est-ce pas, pour demander la même chose qu'eux. Et est-ce que ce serait la même chose? Mais ça, c'est un tout autre sujet. Les conséquences, juste le verset 19, j'aurais pu aller plus loin, mais il y a de quoi nous occuper pleinement, là, ce matin. Encore deux images. La première, c'est la conclusion de ce qui reprend depuis le verset 11, et encore une grande ouf qu'on peut dire. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. » Il y a presque la totalité des gens ici ce matin. Nous savons ce que c'est que d'être étranger dans un pays. Être de passage. Peut-être locataire aussi et pas encore propriétaire, etc. Mais même avec permis de séjour, il suffit que la volonté du gouvernement change par rapport au pays dont nous sommes d'origine. Hop, dehors. Quelle différence quand on rentre sur ses soins. Ah, je suis chez moi. Même si on peut me mettre en prison parce que je suis criminel, on ne peut pas me virer. Du moins jusque-là. C'est en discussion, mais ça c'est encore aussi une autre question maintenant. La déchéance de la nationalité. Ça, on ne l'entendra pas de la part de Dieu. D'abord parce que ce n'est pas un décret qui nous l'accorde, c'est par naissance, en tant qu'enfant du roi. Donc même s'il peut nous punir quand nous sommes têtus, désobéissants, il ne reniera pas notre identité, nous sommes ses enfants. Il nous disciplinera, mais il ne nous reniera pas. Il fera tout justement pour nous discipliner, pour nous ramener à la réconciliation, à la paix avec lui, à une pleine communion. Et même si on peut être très têtu par moment, ça c'est une promesse formidable. Surtout quand on dit, oh, je suis tellement loin de Dieu, est-ce qu'il peut encore m'accepter? Ben voilà ce que dit ce passage. Oui. Pourquoi l'image suivante? Vous êtes au contraire non seulement concitoyens, on a le bon passeport, celui du ciel, qui n'expire pas, qui ne sera pas révoqué, qui ne sera pas confisqué. Mais encore plus, et c'est là où je voudrais surtout rester pour le restant du temps ce matin, membre de la famille de Dieu. Croyez-vous la parole de Dieu? Sommes-nous membres de sa famille? Êtes-vous sûr que vous le croyez? On parlait dans la voiture tout à l'heure de c'est quoi d'être pratiquant ou non pratiquant. Et pour aller très très vite, il y a une petite blague. Il y a quelqu'un qui n'arrête pas de vanter les bénéfices d'être végétarien. Puis il raconte ses recettes et ce qu'il achète et comment il équilibre ses repas. Et puis des amis l'invitent. Et puis ils mettent sur la table de la viande pour eux et puis ils lui servent un plat végétarien. Et alors, grand étonnement, il voit se servir dans la viande. Et ils disent, mais je croyais que tu étais végétarien. Et sa réponse, oui, mais non pratiquant. Croyons-nous vraiment la parole de Dieu? Nous sommes membres de la famille de Dieu. Sommes-nous croyants non pratiquants? Qu'est-ce que nous faisons en tant que membres de la famille de Dieu? Permettez-moi quelques questions très pointues. Je ne sais pas si je serai réinvité ici après ça, mais comme je suis de passage, je peux dire des choses. Peut-être que Jean-Claude ne pas non plus. Nous sommes littéralement membres d'une même famille. Donc, ce qui peut nous séparer par notre identité, par notre culture, par nos origines, croyons-nous la parole de Dieu que nous sommes une famille de Dieu? Alors, est-ce que nous agissons encore? Ah oui, ceux-là, il faut se méfier, on ne peut pas leur faire confiance. Oui, bon, vous ne dites pas ça entre vous dans l'église, mais... Mais est-ce que vous vous fréquentez vraiment comme membre d'une même famille? Ou est-ce qu'il y a un groupe est là, un autre groupe est là, et un autre groupe est là? Des questions peut-être même encore plus pointues. Est-ce que vous vous connaissez tous? Pardon? Bon, évidemment, ceux qui viennent d'arriver, ça peut mettre un peu de temps, d'autant plus que plus on est nombreux, plus ça met un peu de temps. Est-ce que vous priez les uns pour les autres? Pas seulement ceux qui donnent leur témoignage le dimanche matin ou en venant à l'étude biblique, réunion de prière. Je pousse encore plus loin. Est-ce que vous savez où vous habitez les uns les autres? Est-ce que vous saurez contacter un tel ou un tel? Et j'enfonce même le clou. Est-ce que vous le faites? Quand vous n'avez pas vu quelqu'un pendant une semaine ou deux, est-ce que quelqu'un ose dire, ah tiens frère ou sœur, comment ça va? Ah d'accord, tu étais en voyage, oui. Je ne sais pas si Jean-Claude peut raconter le même genre d'histoire, mais il n'y a rien de pire en tant que pasteur, c'est prendre des nouvelles que quelqu'un qui n'a pas vu depuis un certain temps, parce qu'on décroche, et même si ce n'est pas pour prendre les nouvelles. Ah oui, tu sais pasteur, j'étais en voyage, et puis il y a la famille qui est venue. Et... Non, mais je ne téléphonais pas pour ça. Mais... Poussons ça plus loin. Comme j'ai dit tout à l'heure, tout souvent, nous nous arrêtons avec la nouvelle naissance. Mais croyez-vous que Dieu s'arrête avec la nouvelle naissance? Ou est-ce qu'il va plus loin? Qu'est-ce qu'on vous ferait? Les couples même, pas juste les mamans. Vous accouchez dans la clinique, et puis au lieu d'emmener le bébé à la maison, vous le laissez à la clinique en disant, bon, ça y est, c'est derrière moi, je suis content. Ou pire encore, vous laissez le bébé quelque part sur le chemin avant d'arriver à la maison. Ça y est, j'ai mis un autre nouvel enfant dans le monde. Qui se débrouille maintenant? Dieu agit-il comme ça avec nous? Et pourtant, quand quelqu'un vient au Seigneur, est-ce que le reste de la famille... Oh, formidable, bienvenue! Oh, je peux le porter, je peux lui donner le biberon. Mais un nouveau-né en Christ, il a autant besoin de soins. Jusqu'à ce qu'il apprenne à se nourrir lui-même, à être entouré. Et puis même au-delà, on appelle un peu les parents indignes. Bon, ceux qui ne s'occupent pas du tout de leurs enfants, comme je viens de dire, mais il y a un autre côté d'être indigne. qu'est-ce que vous penserez? Et bien sûr, aucun de vous n'est en train d'agir comme ça. Mais les parents qui font tout et les enfants sont assis sur le divan à jouer aux consoles ou regarder la télé ou écouter la musique. Qu'est-ce qui va arriver quand ils arrivent à la majorité et qu'ils doivent chercher un travail? Est-ce qu'ils vont savoir faire quoi que ce soit? Le thème de notre congrès, de toute notre année, c'est un ministère pour toutes les générations. Dans une famille fonctionnelle, que font les parents? C'est pas juste s'occuper des enfants, mais une part de s'occuper, c'est les faire grandir, c'est-à-dire les faire participer à la vie de la maison pour apprendre des choses, pour assumer des responsabilités, à savoir ce que c'est que de travailler, de fournir un effort et voir un résultat. Pourquoi? Pour que les parents les gardent à la maison? Non. C'est pour les préparer à la vie, pour ne pas se faire avoir en dehors, pour être capable de survivre. Et pas uniquement pour un travail, mais en cuir neuf, comment? Si les enfants n'ont jamais touché à la cuisine, n'ont jamais mis la table, n'ont jamais fait la vaisselle, n'ont jamais rangé leur chambre, etc., bricolé un peu peut-être, on ne leur fait pas vraiment un service. Et dans la vie de l'Église, ce n'est pas différent. Qui fait quoi dans l'Église? Je suis plus libre que Jean-Claude. Bon, lui, il a les réponses aussi, mais moi, non. Donc, je peux oser poser la question. Qui a la responsabilité du bon fonctionnement de l'Église? Si vous dites que c'est que le pasteur, c'est comme dire que le père de famille doit tout faire à la maison. Est-ce que c'est le pasteur et les membres du conseil? Est-ce que c'est que ceux qui ont une charge de ministère quelconque, école de dimanche, sono, musique? Non, si on est dans une famille fonctionnelle, une part du fonctionnement de la famille, justement, c'est dire, ah, chacun sa part, tiens, donnez un coup de main. Ou oui, quand c'est le nettoyage de printemps, ou planter le jardin, c'est, ah, tout le monde au boulot, ou récolter. J'ai des souvenirs plus jeunes aussi. Les temps étaient un peu difficiles, ben, on avait un jardin potager, mais on passait des heures et des heures et des heures, quand les haricots verts étaient bons, à les éplucher, découper, et avant les congélateurs, faire bouillir et mettre en bocal. Et on mangeait ça tout l'hiver après. Qu'est-ce qu'on était content quand il y avait les nouveaux qui poussaient au printemps pour qu'on mange du frais. Mais on participait, quel que soit notre âge, selon nos capacités. Mais l'Église, famille de Dieu, c'est ça que Dieu dit. À nouveau, alors je dis, est-ce que vous croyez vraiment ce que dit la parole? Alors est-ce que vous êtes vraiment pratiquant ou pratiquant? Croyant, non pratiquant. Dans le pratique de ce passage, si nous avons pu dire, oui, j'étais dehors et maintenant je suis dedans, je suis membre de la famille de Dieu, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, j'ai ma place, j'ai mes rôles, mes ministères, ma part. D'ailleurs, pour les familles nombreuses, vous avez déjà la réponse aussi. Bon, moi, je suis l'aîné de quatre, donc là aussi, j'ai appris assez jeune à donner un biberon, à changer les couches de ma sœur, etc. À m'en occuper. Mais j'ai une belle sœur, elle est l'aînée de 13. Et à un moment donné, je lui ai posé la question, mais des parents, ils ont fait comment? Oh, mais ils sont régalés, eux, parce qu'ils étaient tous les deux maraîchers en plus. Donc, c'était le plus grand qui s'occupait des plus petits. Les devoirs, ramener à l'école, ramener de l'école, même les lessives, la cuisine à la maison pour que quand les parents entrent, ils puissent s'asseoir et manger, puisqu'ils avaient bossé depuis très tôt le matin jusque soir. Mais l'Église, en tant que grande famille, c'est ça. Il n'y a pas que père-mère qui s'occupe des enfants, mais la famille élargie. Les grandes sœurs, frères, les oncles, les tantes, les grands-parents. Bon, il n'y a pas de petits-enfants pour Dieu. Mais vous comprenez bien l'image que je suis en train d'essayer de communiquer. Est-ce que c'est que ça que nous vivons vraiment comme Église? Ou est-ce que nous sommes justement des croyants non pratiquants? D'un passage, on ne peut plus terre à terre. Ce n'est pas que ce passage seulement. Une partie d'Éphésiens, une partie de Colossiens, il y a Timothée et Tite, où Paul écrit à Timothée, tu sauras ainsi comment te conduire dans la maisonnée de Dieu. comme le temps passe, je m'arrête là, mais juste une dernière lecture. Écoutez cette lecture-là dans l'image familiale, parce que là, il y a une description de tous les rôles possibles. En résumé, en Tite, chapitre 2, verset 1 à 8, là où vous êtes, selon votre place, maman, père, grands-parents peut-être plus âgés, plus jeunes, enfants, vous avez votre place dans les versets. Je vous lis juste les versets, sans les commentaires plus que cela. Tite 2, verset 1 à 8. Donc il s'adresse à un jeune d'abord, Tite. Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Mais après, il s'adresse à tout le monde. Dis que les vieillards, c'est-à-dire les plus âgés parmi nous, les hommes, doivent être sobres, respectables, réfléchis, solides dans la foi, l'amour et la persévérance. Les plus aînés parmi nous, est-ce que c'est ça qui nous résume ou est-ce qu'on commence à dire « Oh, on le perd un peu la tête, on fait n'importe quoi ?» De même, les femmes âgées doivent se comporter comme il convient des servantes de Dieu. Elles ne doivent pas être médisantes, ni esclaves de la boisson encore, mais enseigner ce qui est bien. Les grands-mamans parmi vous, les dames avec un peu plus d'expérience, avec de grands enfants, est-ce que vous cherchez à mettre en pratique ce qui est dit par la suite? Ainsi, elles apprendront aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à se montrer réfléchies et pures, à s'occuper de leur foyer, être pleines de bonté, se soumettre à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Dans un monde où la famille ne fonctionne plus du tout, quand il y en a encore une qui est à peu près ensemble, qui sait encore comment vivre en famille, à part ceux et celles, et là, la leçon, c'est les dames, pour les plus jeunes. Désolé, tout le monde brise peut-être une idée que vous aviez, mais l'amour s'apprend d'après ce passage. Les dames plus âgées peuvent apprendre aux plus jeunes femmes comment aimer leur mari. C'est pas que le sentiment, c'est pas que la lune de miel. C'est au quotidien qu'est-ce que la femme fait pour montrer qu'elle aime son mari. Bon, d'autres passages parlent de comment le mari aime sa femme aussi. Et puis même l'éducation des enfants. Comment gérer le foyer, mari et femme? Dans quel but? Qu'on soit sel et lumière dans le monde. Que le chrétien ne soit pas calomnié parce qu'il fait pareil ou pire que le reste du monde dans sa vie de famille. Puisque le dessein de Dieu depuis la création, c'est ça. Homme et femme, il est créé à son image. Et pour être une famille de Dieu, justement. Et on voit l'aboutissement de ce que ce sera dans le ciel. Mais en attendant, notre apprentissage à nous tous, c'est là. Et je termine. Ça n'a pas oublié les plus jeunes. Encourage de même les jeunes gens, donc garçons et filles, à se montrer réfléchis. Ah, qu'est-ce qui manque le plus à la jeunesse? C'est les bêtises, les idées farfelues, le manque de persévérance, de passer d'une idée à une autre. Non, là, il dit qu'on peut apprendre aux mêmes jeunes à être posé, réfléchi, stable, surtout si on a des modèles plus âgés qui nous aident dans ce sens-là. Et puis, évidemment, à ceux qui se sentent appelés à se pouvoir servir dans quelque ministère que ce soit, ce qui dit à Tite à nouveau s'adresse large. Étant toi-même à tout point de vue un modèle de belles œuvres, dans ton enseignement, fais preuve de pureté, de sérieux, d'intégrité, que ta parole soit saine et irréprochable, afin que nos opposants soient couverts de honte, n'ayant aucun mal à dire de nous. Voilà le vrai famille modèle. Voilà le vrai famille formidable. Parce que famille de Dieu, et donc là, il y a de l'espoir. On peut dire, oh là, je suis loin de ci, je n'arrive pas encore à ça. Mais l'Esprit nous habite. Dieu nous donne sa force. Il nous donne sa parole. Soyons donc pratiquants à sa gloire.